Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons examiné la parabole du semeur. Elle est simple, elle est inspirée de la vie rurale quotidienne en Galilée, au début de notre ère. Jésus expliqua la signification de cette parabole en privé à ses disciples. Cette parabole décrit quatre groupes de gens qui répondent différemment à la vérité. Seul, un groupe s'accroche vigoureusement jusqu'au moment où le Christ reviendra établir le royaume de Dieu sur terre. Il leur proposa une autre parabole et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent et lui dirent « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Et les serviteurs lui dirent « Veux-tu que nous allions l'arracher ?»« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur « Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Cette parabole est inspirée, elle aussi, de la vie rurale. Les fermiers et les cultivateurs de l'époque connaissaient l'ivraie. On pourrait s'y méprendre au point de la prendre pour du blé aussi longtemps que celui-ci est en herbe, mais elle s'en différencie en mûrissant. Cette parabole explique que le converti et l'inconverti doivent coexister dans la même société jusqu'au temps de la grande moisson qui débutera au retour du Christ et au cours de laquelle il séparera le sien des autres. Voyons l'exemple qu'en donne le Christ. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Il s'agit des véritables chrétiens. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Le Christ avait dit à ces gens, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable qui est le dieu de ce siècle. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde, à la fin de notre époque. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Il s'agit de ceux qui, en connaissance de cause, refusent de faire la volonté de Dieu. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ces méchants, ces incorruptibles, comprendront le sort qui leur est réservé avant d'être réduits en cendres. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Ceci est confirmé par l'apôtre Jean qui a écrit « La mort et le séjour des morts, le séjour des morts c'est le Hadès, c'est la tombe, furent jetés dans l'étang de feu. » Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. La tombe n'aura plus de raison d'être puisque les justes seront ressuscités et les méchants seront réduits en cendres. Il n'est pas question pour la Bible d'une âme qui brûlerait éternellement, mais d'une destruction totale et définitive. Si vous voulez recevoir nos études gratuites sur le mauvais riche et Lazare ainsi que sur l'enfer, il vous suffit de nous les demander. Jésus dit encore, « Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit ? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Cette parabole, tout comme les autres, a une signification particulière. Jésus avait dit à ses disciples au sujet des opposants qu'il rencontrerait « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Le message du royaume de Dieu, du gouvernement divin, que le Christ viendra établir ici-bas, est la lumière qui luit dans les ténèbres. Le Christ, la parole, était la lumière du monde, et aujourd'hui, les véritables chrétiens doivent éclairer le monde par leur exemple. Le devoir qui incombe à l'Église de Dieu, la seule que le Christ ait bâtie, est de faire connaître les mystères du royaume de Dieu au monde entier. Le Christ illustra ce devoir en déclarant que, si quelqu'un possède une lampe, il serait ridicule de cacher sa lumière sous un boisseau ou même de l'éteindre. Il en est de même pour le message relatif au royaume de Dieu. Celui à qui le Christ a révélé ce message ne doit pas le conserver pour lui seul. Ce message doit être propagé dans le monde entier. Jésus a déclaré, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Comprenons bien que c'est au temps de la fin de la présente époque que ce devoir doit s'accomplir. Ce message doit être proclamé. L'apôtre Paul le confirme. Si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est ce que nous faisons sur les ondes de la radio, et aussi par les différents documents que nous mettons gratuitement à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à la vérité. Pourquoi Matthieu parle-t-il du royaume des cieux et non du royaume de Dieu, comme le font les autres apôtres? Parce qu'il s'adresse plus particulièrement aux Juifs de son époque, et le dictionnaire encyclopédique de la Bible, Abbaye de Maretsu, écrit à la page 1134, « Beaucoup de rabbins à partir du 1er siècle après Jésus-Christ emploie l'expression « royaume du ciel ». En raison du caractère imprononçable du nom divin, le terme « ciel » remplace celui de Dieu. Cette expression équivaut donc à celle du « royaume de Dieu ». Dieu a révélé à son Église des vérités gardées secrètes depuis les temps anciens. Même les grands prophètes de l'Ancien Testament n'avaient pas la possibilité de comprendre le grand plan de salut dans tous ses détails. Les anges eux-mêmes souhaitaient connaître ce qui est révélé depuis la venue du Christ, et cette révélation n'est faite qu'à ceux qui se soumettent à Dieu et veulent vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'apôtre Pierre a écrit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. » Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Aux Corinthiens, l'apôtre Paul a parlé d'une sagesse mystérieuse et cachée. Cette sagesse, cette connaissance mystérieuse et cachée est le plan divin qui consiste à faire de tous ceux qui se soumettent à Dieu des membres de la famille divine. Il écrit, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. Pensez-vous que l'on pourrait cacher de telles vérités sous un boisseau ou sous le lit? Non, bien sûr. En ces temps de la fin, comme le Christ l'a déclaré, ce message doit être prêché, annoncé au monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Et c'est parce que Satan sait qu'il lui reste peu de temps qu'il pousse ses églises à prêcher un autre évangile, un évangile sur la personne du Christ, et non le véritable évangile qui concerne le royaume, le gouvernement que le Christ viendra implanter sur cette terre. Satan le malin espère retarder l'échéance de son règne sur ce monde. Il en est le prince, et il est le dieu de ce siècle. il leur proposa une autre parabole, et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. » Cette parabole raconte que la préparation du royaume de Dieu se fait à une petite échelle, mais ce royaume englobera toute la terre. Le prophète Daniel a écrit au sujet du Christ. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume, et ils posséderont le royaume éternellement d'éternité en éternité. À l'époque de l'Ancien Testament, peu de personnes furent appelées à hériter le royaume lorsque le Christ reviendra. On y trouve des hommes comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, Daniel, et aussi des femmes comme Esther, Rahab, Sarah et d'autres, dont nous trouvons une liste partielle dans le 11e chapitre de l'Épître aux Hébreux. Ce n'est qu'après la mort et la résurrection du Christ que ce nombre s'accrut. Le jour de la Pentecôte, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Dieu attire vers son Église ceux qui sont appelés à la vie éternelle, mais tous auront leur chance de salut tôt ou tard. Dieu ne souhaite la mort définitive de personne. Son souhait est que tous arrivent à la repentance. Il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que la pâte soit toute levée. Cette parabole est semblable à la précédente. Un peu de levain finit par faire gonfler toute la pâte. De même, ce que Dieu a débuté à petite échelle aura de grands résultats. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille car la moisson est là. » Cette parabole nous permet de comprendre que Dieu prend en main ceux qui veulent se soumettre à lui. Il les aide à croître en grâce, en connaissance et en caractère avec l'aide de l'Esprit-Saint. L'apôtre Paul a écrit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Ce que Dieu appelle au cours de la présente époque sont les premiers fruits, les prémices de ses créatures, et c'est Dieu qui entreprendra la moisson lorsque les fruits seront mûrs. La semaine prochaine, je terminerai cette série d'émissions sur les paraboles.